Encore une fois seulement, Seigneur. Bonsoir, amis. C'est un privilège d'être ici ce soir et de jouir de cette merveilleuse fête musicale, de ces chants quand ils sont interprétés avec un véritable enthousiasme. J'observais Jimmy et je crois que c'est Jimmy. Et si nous pouvions seulement avoir autant d'enthousiasme pour toutes les choses de Dieu dans notre propre vie que Jimmy en a dans l'émotion qu'il met pour les chanter, nous arriverions à quelque chose. J'apprécie vraiment ce garçon, son père, notre bon ami. Je voudrais poser une question. Ces dames qui ont chanté ceci, je voudrais en parler. Est-ce le même groupe qui a chanté il y a plusieurs années quand j'étais ici? Est-ce le même? J'ai essayé de trouver ce chant partout. Dans mes sombres heures d'épreuve, j'ai essayé de penser que j'aimerais en parler. Jimmy McGuire, avez-vous cela sur les bandes? Je l'espère, voyez-vous. Est-ce enregistré sur disque? Si oui, je le voudrais. Et j'ai essayé de penser que je pense que il m'aime quand mon chemin est si sombre, voyez-vous. Et j'ai certainement beaucoup aimé ce beau chant de Sion. Maintenant, je comprends, je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est le même groupe qui va chanter à la convention des hommes d'affaires. Je crois que c'est dimanche prochain. Je crois que c'est cela, si je ne me trompe pas, à 2 heures dimanche prochain. Ainsi, si vous aimez ce genre de chant, eh bien, ils seront là-bas pour chanter encore pour nous. Nous devrions les emmener à Tucson demain soir, pour qu'ils chantent là-bas. Je suis sûr que ce serait une bénédiction pour les gens. Maintenant, demain soir, c'est le chapitre de Tucson. Nous serons à l'auberge Ramada demain soir là-bas à Tucson. Vous comprenez tous que Phoenix est tout simplement la banlieue de Tucson, voyez-vous? Nous sommes certainement très heureux de vous avoir comme concitoyens de notre grande économie d'Arizona. Maintenant, nous sommes sur la colline. Vous êtes dans la vallée. Rappelez-vous, à peu près 2000 pieds plus haut que vous ne l'êtes, vous voyez? Ainsi, cette banlieue de la ville, nous sommes certainement heureux d'être ici en communion avec vous ce soir. Ainsi, souvenez-vous, demain soir, et le point le plus important de l'Arizona sera le banquet du chapitre. Et puis, le soir suivant, nous sommes à... J'ai oublié le nom de l'église maintenant. C'est l'Assemblée de Southside. Puis, mercredi soir, nous sommes au 11e et Garfield. Je crois que c'est cela, les Assemblées de Dieu, là-bas, pour cela. Et puis, le jeudi, la convention commence. Maintenant, vous êtes si gentils et nous avons passé des moments merveilleux de communion fraternelle cette semaine et toutes ces églises tout le long de la vallée Maricopa ici. Et le Seigneur nous a certainement bénis excessivement et abondamment plus que je n'espérais qu'il ferait. Les places ont été remplies et c'était plein dans les cours et les gens étaient debout et une grande communion fraternelle autour de la parole. Les ministres sont venus. J'ai remarqué le pasteur frère Outlaw. Je l'ai vu dans tous les services que nous avons eus, aussi loin que je puisse penser. Et d'autres sont venus d'une église à une autre. C'est la bonne façon de le faire. J'aime cela, la communion fraternelle l'un avec l'autre. Comme le bon vieux frère Bosworth, qui est dans la gloire maintenant depuis 3 ou 4 ans, il me dit, « Savez-vous ce qu'est la communion fraternelle, frère Branham ?» Je répondis, « Je crois. » Il dit, « Ce sont 2 compagnons sur le même bateau. » Jeu de mots en anglais intraduisible en français. Le mot anglais « communion fraternelle » se dit « fellowship » et le mot « compagnon »« fellow », le mot « bateau »« ship ». Ainsi, c'est juste 2 compagnons sur le même bateau. C'est ce que nous sommes. Je suis heureux en regardant l'auditoire ce soir de voir des amis ici que je n'avais pas vus avant, qui ont fait toute la route depuis le Kentucky, l'Indiana, l'Ohio, pour venir ce soir ici nous visiter. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici ce soir. Peut-être étiez-vous à l'autre réunion, mais dans de plus grandes salles, je ne vous avais pas remarqué. Aussi que le Seigneur vous bénisse très richement. Et maintenant, je vais rester seulement un petit moment. Il faut que je ramène ma famille ce soir et il faut que nous soyons prêts pour la réunion demain à Tucson. Ainsi, nous partons ce soir après le service. Et c'est seulement environ 125 milles et une grande partie de désert. Et je sommeille et je suis fatigué, aussi je vais essayer de vous laisser partir. Maintenant, j'ai dit ce matin qu'en amenant ce prophète au sommet de la colline, C'était hier soir, n'est-ce pas? Ce matin, nous avons parlé sur autre chose. Mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous soyez en retard pour à cause de votre travail. Et je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous manquiez un jour de temps en temps. Mais ne manquez pas à l'école du dimanche, voyez? Ainsi, nous voulons vous voir à l'école du dimanche. Maintenant, ce soir, avant de nous approcher de la parole, approchons-nous de son auteur dans la prière. Je voudrais dire juste avant cela à cette merveilleuse petite chorale, à ces enfants de Dieu, que certainement je les apprécie et que j'apprécie beaucoup leur façon de chanter. Et frère mort s'est sauvé pour me laisser la place. J'allais lui laisser le service, mais il s'est sauvé. Et je vois justement sa gentille épouse assise ici. Maintenant, courbons la tête pour quelques mots de prière. Seigneur Jésus, nous venons à nouveau ce soir d'abord pour te remercier de tout ce que tu nous as donné, et par-dessus tout de ce que tu nous as donné, cette vie éternelle. Car nous savons que nous nous reverrons, pas sur cette terre, sur la terre qui viendra. Maintenant, bénis ta parole ce soir, et nous te remercions pour la façon dont tu as béni les chants. Maintenant, je te prie, Père, de continuer à bénir les chants, les cantiques et les chanteurs, le pasteur de cette église, son pasteur adjoint, et aussi les diacres, les administrateurs et tout ce que cela représente. Bénis-les, Père. Nous te prions de bénir le message ce soir. C'est quelques paroles qui sont choisies. Nous te prions d'y ajouter le contexte et que tu veuilles nous donner ta bénédiction. Guéris tous les malades et les affligés. Que les hommes et les femmes ce soir saisissent la vision, comprennent ce qu'est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'entrer dans son programme, et alors les autres choses prendront soin d'elles-mêmes. Il nous enseigne de cette façon, et il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Que nous revenions ce soir aux bénédictions du royaume, au programme du royaume, et à prendre de toi, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je suis juste un peu enroué d'avoir beaucoup parlé. Je sais qu'il fait chaud ici et je suis ennuyé de voir tous ceux qui sont debout, surtout ces dames qui se tiennent contre les murs, dehors, dans le vestibule. Et je vais me dépêcher aussi vite que possible, aussi vite que je le peux. Et pendant que je lis ou que je parle, rappelez-vous simplement que Dieu omniprésent est toujours présent ici. Et comme un frère l'a dit au sujet de l'épileptique la dernière fois que nous étions ici, Dieu peut guérir le cancer, la paralysie, quoi que ce soit. Il l'a déjà fait. S'il peut simplement faire que vous le croyez, vous n'êtes pas sauvé ce soir. Vous êtes sauvé, vous avez été sauvé il y a 1900 ans. Et maintenant, peut-être ce soir, accepterez-vous ce salut. Mais il a déjà été payé. La dette a été effacée. Et le diable vous mit dans la maison de prêt, mais Jésus vint. Il va vous racheter, il ouvrit les portes, et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de sortir et revendiquer votre liberté, c'est tout. Vous avez un reçu de Dieu disant que la dette est payée. Et Jésus dit dans ses dernières paroles, tout est accompli. Toutes les bénédictions rédemptrices étaient complètement accomplies. La grande colère de Dieu à cause du péché, quand il devint péché pour nous, la dette fut réglée. Et Satan n'a plus de pouvoir, il peut seulement vous faire croire qu'il en a. S'il peut vous le faire croire, alors d'accord, vous allez le supporter. Mais légalement, il n'a absolument aucun pouvoir. Tout le pouvoir qu'il avait lui a été repris au calvaire. C'est là que le prix fut payé. Il n'est rien d'autre qu'un bluffeur. Si vous voulez écouter son boniment, eh bien faites-le. Mais vous n'avez pas à le faire, vous êtes libre ce soir. Il vous a libéré. Et maintenant, si quelque chose dans sa parole peut vous faire réaliser que vous êtes libre par sa grâce, ou si quelque chose vous fait réaliser et que la parole vous fait comprendre, ou quelque action de Dieu, que cela vous concerne, que cela nous concerne tous, alors vous l'acceptez simplement sur cette base et vous êtes libres aussi. Mais vous n'avez pas à vous sentir différent, vous n'avez pas à ressentir quoi que ce soit. Ce n'est pas basé sur... Jésus n'a jamais dit « le sentez-vous », il a dit « le croyez-vous ». C'est la foi, c'est notre foi, c'est un bras puissant qui tient l'épée aiguë à deux tranchants de Dieu. Et cette épée aiguë à deux tranchants libérera chaque promesse. Si ce bras de la foi est capable de porter cette épée. Certaines personnes ont les muscles très faibles et peut-être ne peuvent-ils que couper juste un petit morceau, suffisamment pour se joindre à une église. D'autres peuvent arriver jusqu'à la justification, d'autres peuvent faire tout le chemin jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Un grand bras fort tenant cette Bible peut libérer toutes les promesses, c'est juste. Aussi, soyez forts dans le Seigneur. Maintenant ce soir, je désire lire dans un petit contexte pour lequel j'ai inscrit quelques notes ici. Vous le trouverez dans le livre des Juges, le 16e chapitre des Juges, 27e et 28e verset, pour faire un contexte à ce dont je veux parler. Et la maison était remplie d'hommes et de femmes, et tous les princes des Philistins étaient là, et sur le toit environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Et Samson cria à l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Si je devais en faire un texte, je voudrais prendre ceci pour quelques instants. « Seigneur, seulement encore une fois, encore une fois, seulement Seigneur. » Il y avait à peu près, comme le dit l'Écriture, à peu près 3000 Philistins qui regardaient depuis les hautes galeries du stade, quand ils entrèrent tous les deux dans le grand stade ou colisée. Les seigneurs guerriers, très honorés, et leurs femmes couvertes de bijoux étaient là. Et l'annonceur dit que Samson entre en scène. Ils ont dû se lever, se rapprocher un peu, allonger le cou en quelque sorte pour bien voir. Et que pouvaient-ils voir? Sinon une masse de chair humaine à un homme qui avait été autrefois le grand guerrier et qui était conduit, aveugle comme il l'était, conduit par un jeune garçon qui l'amena sur la scène. Tout le jour, les salles avaient résonné d'un mur à l'autre du bruit des orgies d'hommes et de femmes vivres. Quel spectacle cela devait être! Et quel silence a dû tomber sur la maison quand cet homme, conduit par un jeune garçon, leur grand ennemi arriva en marchant sur la scène sans yeux devant s'être conduit par un gamin. Un homme qui avait été si courageux, un homme qui avait été le guerrier que Samson était et qui devait être amené par un jeune garçon jusqu'à la scène. Et un homme qui était un serviteur de Dieu, amené à cette condition dans cet endroit de débauche et d'ivrognerie. C'était une grande manifestation pour leur dieu Dagon, le dieu poisson qui avait remporté la victoire sur Jéhovah. Arrêtons-nous une minute et laissons cela pénétrer. Ils célébraient la victoire sur l'armée de Jéhovah. Dagon, l'idole païenne, le dieu poisson des Philistins que Dieu haïssait. Et ils étaient là, dans leur querelle d'ivrogne, célébrant la victoire remportée sur le serviteur de Dieu. Que c'est terrible de penser à cette chose. J'aimerais, si c'était possible, rester tranquille quelques minutes et en peindre un tableau. Mais imaginez-le seulement dans votre esprit. Si vous aviez dû vous tenir là et regarder quelque chose de ce genre, alors je vais vous rappeler ce tableau. Imaginez seulement toute la journée, buvant, célébrant les femmes bien habillées, les hommes, les chefs, les guerriers, les grands hommes de la nation, rassemblés dans cette nouvelle maison où ils avaient offert une nouvelle idole au dieu poisson, lui donnant honneur et louange pour la victoire sur les serviteurs de Jéhovah. Maintenant, par surcroît de malheur, voici le conducteur, le messager du jour, n'ayant plus ses yeux, conduit par la main d'un jeune garçon pour qu'il soit amené dans le stade. Le jeune homme conduit l'aveugle, trébuchant vers cet endroit, et je peux entendre un murmure venant de ce grand homme, le grand homme massif qui se tenait là comme une grande machine, mais complètement impuissant. Dieu l'avait élevé dans un buste. Il vendit son droit d'aînesse. Il était là, un amas de rouages, sans aucune force, conduit par un jeune garçon. Mais je ne doute pas dans mon esprit que Samson ait pensé à toutes ces choses. Quand il avait sa force, il avait réfléchi à ce qui lui était arrivé. Son vœu lui avait été repris et il s'était rendu à l'ennemi. Et eux, en échange, avaient enlevé la vue de ses yeux. Et il dit au jeune garçon, « Conduis-moi vers le pilier sur lequel repose le bâtiment. Conduis-moi simplement vers ce pilier. » Et pensez-y, on l'avait amené là, on s'amusait de lui. Il distrayait cette bande d'ivrognes. Quel reproche, quelle disgrâce c'était, quel exemple c'est. Cela me fait penser à une nation vaincue, moralement décadente, alors que Samson se tenait près de cette colonne, amusant l'ennemi, humilié et brisé dans une telle condition. Un joli symbole d'une nation déchue, une nation moralement corrompue, une église tombée qui a vendu son droit d'aînesse, qui est tombée dans la corruption morale et qui s'est rendue à l'ennemi. Un exemple public, bien que vous ayez été élevé pour servir Dieu, mais une chute dans la déchéance morale vous amène à cette condition. Quel exemple c'était! Je peux simplement entendre tous les guerriers alentours, toutes les dames avec leurs perles, leurs bracelets, leurs beaux bijoux, etc. dire « Alors c'est Samson? C'est cet homme puissant dont vous avez parlé? C'est cet homme dont vous avez dit que l'esprit des dieux puissants était en lui? C'est cet homme dont vous avez parlé qui pouvait prendre possession de notre pays? Mais regardez-le donc maintenant! » Quel exemple! Quelle leçon ce devrait être pour nous! Quelle chose solennelle ce devrait être! Nous ne devrions pas nous approcher de ceci simplement pour nous rassembler et passer un bon moment dans une célébration. Nous nous rassemblons pour voir où nous nous tenons, pour voir ce qui nous arrive. Et je peux entendre, et Samson sans aucun doute pouvait entendre d'un côté et d'autre des gens qui avaient entendu parler de lui, dire « Eh bien, c'est donc Samson ?» Je me demande aujourd'hui si l'ennemi ne peut pas dans cette époque dire à peu près la même chose de notre mouvement de Pentecôte. De dire seulement le nom de Samson, ils seraient tous inquiets parce qu'il était oint serviteur de Dieu. Il était né avec un don de Naziréen. Il savait que rien ne pouvait arrêter ce don aussi longtemps qu'il le tenait. Il était l'homme choisi de Dieu pour ce jour, le messager choisi de Dieu pour ce jour. Beaucoup d'entre eux pensaient à ce que cela devait être. Beaucoup d'entre eux se le rappelaient, beaucoup se souvenaient. Alors qu'ils regardaient cette créature impuissante qui était là, les bras autour de la colonne, aveugle, se moquant de lui, le frappant avec des fouets, disant « Viens, Samson, toi, grand et fort, fais quelque chose, toi qui es si fort. Où est ton Dieu » N'est-ce pas exactement de cette façon que l'ennemi aime agir quand il peut vous faire tomber? Mais il n'osera pas essayer cela aussi longtemps que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Il aurait peur de faire cela quand les bénédictions naziréennes sont sur vous. Mais s'il peut vous voir vaincu, c'est là qu'il s'amuse de vous. C'est quand il peut dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous. Ce sont exactement les mêmes hommes que nous. Mais quand il y a quelque chose de différent, quelque chose de remarquable qui est la bénédiction de Jéhovah, alors ils ont peur de dire quelque chose. Aussi longtemps qu'on peut voir la puissance de Dieu à l'œuvre, le diable a assez de bon sens pour garder la bouche fermée, mais quand il sait que vous êtes vaincu, il lâchera sur vous tous les démons qu'il pourra. C'est dans cette condition que Samson se tenait. Pensons seulement, alors que je peux voir les guerriers, certains, de vieux vétérans avec des cicatrices sur le visage, ils regardaient Samson debout là, sans espoir, sans appui, ils se rappelaient l'avoir vu autrefois avec une mâchoire dans les mains et un millier de Philistins étendus morts à ses pieds. Et maintenant, un jeune garçon le mène par la main. Ils peuvent se souvenir comment ils se sont interrogés dans leurs conseils quand on apporta la nouvelle qu'un homme, un simple homme, prit-le, une vieille mâchoire de mule brûlée, grillée par le soleil. Et maintenant, beaucoup d'entre vous ont pris l'histoire des Philistins. Ces armures que portaient ces hommes, les casques sur leur tête étaient en cuivre, épais environ d'un pouce, et le vêtement qu'ils portaient, c'était des hommes grands et forts, avec de grands morceaux de cuivre épais d'un demi-pouce du haut en bas de leur corps, pour les protéger d'un grand javelot qui frapperait, ou d'un grand coup avec une épée à deux tranchants qui les aurait étendus par terre. Maintenant, comment un homme, un seul homme, avec 1000 hommes autour de lui, des guerriers en armure avec leurs lances, avec ses grands casques, qui ne laissait voir que les yeux, comment un homme pouvait-il prendre une mâchoire d'âne et en abattre 1000 d'un seul coup? Eh bien, au premier coup, cette vieille mâchoire fragile aurait dû se briser en 1000 morceaux sur l'un de ses casques. Il savait que c'était une force surnaturelle. Quand il frappait un guerrier à la tête, cette chose pénétrait et le tuait aussitôt. Il frappait à gauche et à droite, et chaque fois qu'il frappait, la puissance de Dieu frappait avec lui. Cela ne demande pas, comme nous le penserions, une grande chose. Cela ne demande qu'une main qui est complètement oint du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, pour abattre n'importe quel ennemi dans n'importe quelle circonstance. Et comme ces guerriers s'en souvenaient, Serait-ce possible que ce ne soit pas lui, aurait pu se dire certains? Non, c'est lui, je peux reconnaître sa stature, c'est Samson, celui qui servait, celui qu'il disait être le vrai Dieu. Mais son Dieu sûrement l'a abandonné. Mais il se trompait, Dieu ne l'avait pas abandonné, il avait abandonné Dieu. Et je pense que c'est ainsi pour les gens ce soir. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné son Église, c'est l'Église qui a abandonné Dieu et sa parole. Et c'est cela le problème. Remarquez, beaucoup d'entre eux se souvenaient. Le groupe qui était là d'un côté disait, « Je me souviens lorsque Dalila avait pris des cordes que même des chevaux ne pouvaient rompre en les tirant. Elle avait lié. Et quand nous sommes arrivés sur lui, comment il les brisa en morceaux comme s'il n'était rien d'autre que de petits fils. Et il est ici vaincu. » Et un autre groupe pouvait se rappeler un soir à Gaza comment il l'avait enfermé, mais il avait encore l'onction sur lui. Ils ont essayé de l'enfermer, de refermer les portes sur lui. Ils dirent, maintenant nous allons nous précipiter sur lui. Mais l'Esprit du Seigneur revint sur lui, il souleva toutes les portes et les emporta sur la montagne. Quand un homme est dans la ligne du devoir pour Dieu, il n'y a pas de barrière. Rien ne peut l'arrêter. Le diable a essayé d'enfermer l'homme de Dieu et le peuple un jour par la mer Rouge, mais il la traversa quand même. Aussi longtemps qu'un homme est au service de Dieu, aussi longtemps que l'onction et la bénédiction sont sur lui, il ne doit rien craindre, parce qu'il nous a promis d'être avec nous, et rien ne peut en aucune façon nous tourmenter. Mais ceci est un exemple de ce qui arrive lorsque vous avez finalement épuisé la patience de Dieu. Maintenant, il est indulgent, mais souvenez-vous que sa patience a une fin. Maintenant, Samson agissait mal la nuit même où il l'avait pris là-bas, mais finalement Dieu en a eu assez. Il ne pouvait pas le corriger. Ma prière est celle-ci. Ô Dieu, ne laisse jamais cette église de Pentecôte arriver au point où la patience de Dieu soit épuisée pour vous. Il enverra des prophètes, comme nous l'avons enseigné cette semaine, suscitant des prophètes à travers les âges, annonçant sa parole et ramenant sa parole, et vous vous en éloignez continuellement. Vous vous retrouvez aveugle, aussi impuissant, sans ressources, vaincu. Et j'ai peur que ce soit là que nous nous dirigions. Voyez, Samson succomba au charme. Et c'est à cela même que l'Église succombe aujourd'hui, au charme. Quelle pitié de voir ces choses arriver. Oui, lorsqu'ils ont essayé d'enfermer la puissance de Dieu, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas le faire. Samson souleva ses grandes, grosses portes de fer qui pesaient des tonnes. Il les emporta sur la colline et il les déposa. Certainement, personne n'allait le poursuivre. Il n'était pas si bête. Et quand un homme vient sous l'onction du Saint-Esprit et avec la parole du Seigneur, avec « Ainsi dit le Seigneur », vous aurez le bon sens de ne pas essayer que vous montrez une église comme cela, impuissante, vaincue et aveugle, pouvoir, même groupe dont elle était sortie. Et quand elle commence à agir, elle prédica presque toutes les congrégations désirent un petit jeune homme comme pasteur, et vous pensez qu'il en sait beaucoup plus que n'importe quel autre. Mais que votre corps soit malade une fois, et vous n'avez pas besoin d'un de ces petits docteurs qui sort de l'école, si vous devez être opéré et avoir une opération du cœur, vous voulez un homme mûr, aux cheveux gris, qui a de l'expérience. Ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est l'Évangile à l'ancienne mode, qui a prouvé qu'il est la puissance de Dieu. Pas un de ces petits riquis que nos séminaires font sortir de leur couveuse. Vous savez cela. C'est là où nous en sommes ce soir. C'est la condition dans laquelle nous sommes. Vous n'avez rien à faire dans un tel gâchis. Vous avez commencé en tombant juste là et vous n'êtes jamais revenu. Et vous ne le ferez pas aussi longtemps que vous continuerez. Avez-vous jamais pensé, pendant que ces Philistins s'étonnaient au sujet de Samson, vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passait dans l'esprit de Samson? Que pensez-vous qu'il se passait dans l'esprit de cet homme? Je crois qu'il pensait, alors qu'ils étaient là, complètement aveugles, sans espoir de recouvrer la vue, il pensait à toutes les grandes victoires que Dieu lui avait données. Il était là, pensant au jour passé à ce qu'il avait été. Et c'est exactement ainsi qu'est l'homme, comme je l'ai dit ici il y a quelque temps. L'homme se remémore toujours ce que Dieu a fait. Il attend ce que Dieu va faire, mais il ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Voyez-vous, regardez ce qu'il fait maintenant. Nous savons ce qu'il a fait. Et il nous envoie, il essaye encore de nous secouer, il essaye de ramener au chemin qui mène à sa parole. Et il le prouve par sa parole confirmée. et nous nous asseyons simplement, nous dormons, rentrons chez nous et disons, qu'a-t-il dit? Je déteste aller les entendre parler si longtemps. Ce qui se présentait à son esprit, c'était ce que nous appellerions ses beaux jours. Quand il était dans l'esprit du Seigneur, quand le Seigneur répondait à ses prières, même avant qu'il ne prie, du moment qu'il vivait pour Dieu, Dieu était là au moment voulu. Il n'avait pas le temps de penser, eh bien maintenant, il faut que je prie jusqu'au bout et voir si c'est mille Philistins. Il savait que Dieu était avec lui. Il n'y avait pas de condamnation. Aussi, il prit la première chose qu'il avait sous la main et commença à frapper. C'est juste. Il n'a pas attendu d'être licencié slet ou d'apprendre à se battre en duel. Il a simplement pris ce qu'il avait sous la main et il s'est mis à cogner fort. Mais aujourd'hui, nous avons appris à combattre tous les credos et tout cela, à faire des histoires et à nous battre. Et nous n'arrivons à rien. Nous bluffons comme au jour de Goliath. Peut-être Dieu nous enverra-t-il un David qui ne connaît pas les credos, mais qui ne connaît que la puissance de Dieu qui a été éprouvée, expérimentée. Là était toute l'Église vaincue parce qu'un gros homme criait « Le temps des miracles est passé ». Mais cela ne marcha pas quand un homme de Dieu s'avança. Un petit jeune homme à l'épaule tombante, au teint coloré, mais Dieu était avec lui. Il en faisait l'expérience. Et il dit, prends ce credo de notre église, avance-toi vers lui. Il dit, je n'ai jamais essayé cette chose, je n'y connais rien. Il se rendit compte que le vêtement ecclésiastique de Saül n'allait pas à un homme de Dieu. Aussi il le rejeta et il prit ce qu'il savait être juste. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un licencié ès-lettres ou d'un titre de docteur pour entrer dans une église ou quelque chose. La seule chose qu'il nous faut, c'est la puissance et la résurrection de Christ dans nos vies. C'est prendre la parole de Dieu avec l'amour de Dieu dans nos cœurs pour être sûr que Dieu répondra à ce que nous demandons. Il ne retirera aucune bonne chose à ceux qui marchent droitement devant lui. Maintenant, il pensait à ces jours glorieux quand il y avait des jours glorieux. L'Église maintenant pense au réveil de guérison divine et de victoire il y a 15 ans environ. Maintenant, et il est aussi de Dieu et son peuple qui est tombé. C'était probablement assez grave pour que Samson s'arrête et pense qu'il avait trahi Dieu. Ce n'était pas la faute de Dieu s'il était vaincu. C'était sa propre faute. Et le peuple de Dieu, il avait été suscité pour lui prêcher l'évangile dans sa force. Et en flirtant avec cette femme immorale, il avait perdu toute la force que Dieu lui avait donnée. C'est la même chose avec l'Église. Dieu a suscité l'Église pour qu'elle soit un phare, pour déverser sa puissance, pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, vivre saintement, prêcher le plein évangile, le manifester. Mais nous commençons à entrer en rampant, à laisser tomber les barrières. Nous avons suivi le mauvais exemple. Les femmes font comme la femme du pasteur. Il la laisse embrouiller tout, couper ses cheveux, porter n'importe quel vêtement indécent. Il ne la réprimande jamais. Et les autres disent, si sœur une telle peut le faire, moi aussi. Que ce ne soit pas votre exemple. Voyez-vous, Dieu vous a dit ce qu'il faut faire. Tenez-vous-y. Maintenant alors, quand vous faites cela, vous trahissez Dieu et vous trahissez aussi son peuple. Vous trahissez son peuple. Et quand vous le trahissez, vous trahissez Dieu. Dieu vous a mis là pour être un gardien. Et quand vous voyez le péché se glisser, au lieu de retrancher cette chose, on l'attire. Quand tous les prêtres se réuniront, nous aurons une certaine chose. Nous allons voter pour qu'une certaine doctrine sorte de l'Église, la doctrine de la guérison divine. Nous n'aimons pas cela. Alors vous allez voter contre elle. Oh, c'est ainsi que cela arrive. Les méthodistes, vous aviez la guérison divine dans les églises. Presbytériens et luthériens, vous l'aviez il y a longtemps. Vous aviez des cris et de la joie. Que leur est-il arrivé? Vous avez une bande de 1600 efféminés plus qui l'ont transformée en prestige et l'a disparu. Et vous, pentecôtistes, vous avez fait la même chose, c'est vrai. Et maintenant, vous êtes tout aussi vaincus qu'eux, bien organisés. Et nous de ce groupe, nous croyons ceci, et si vous n'en êtes pas, vous irez en enfer. Et que faites-vous à discuter? Vous n'allez nulle part. Dieu ne vous donnera aucune approbation, parce que vous êtes aussi vaincus que les autres, parce que vous avez pris le même chemin, exactement. Maintenant, il était prisonnier du pays pour la destruction duquel il avait été suscité. Il était là, cet homme puissant, prisonnier de la nation même, pour la destruction de laquelle Dieu l'avait appelé. Je ne veux pas vous blesser, mais j'espère que cela vous aide. Et voici l'Église pentecôtiste que Dieu a suscité sortant des dénominations où ils étaient, et maintenant vous êtes prisonniers du même clan. Maintenant vous savez que c'est la vérité. Et alors que quelqu'un dise quelque chose contre, et vous êtes prêt à le jeter dehors. C'est presque l'aveugle conduisant l'aveugle. Et tout le monde sait que l'église pentecôtiste, il y a 50 ans, rejetait tout ce qui voulait s'organiser. Vous étiez frères et sœurs, et vous viviez le temps, et vous parliez de l'église moderne, et de sa façon d'être, et des femmes, la manière dont elles se comportaient, ce qu'elles faisaient, les hommes, et comme ils avaient laissé la parole de Dieu. Et Dieu vous en a fait sortir. Et vous avez fait demi-tour, et vous êtes retourné tout droit à la chose même dont Dieu vous avait fait sortir. Et vous avez suscité pour cette raison même, et vous vous êtes attaché au pilier d'une dénomination, aussi vaincu que l'était Samson, aveugles à la parole et tout le reste, c'est vrai, c'est trop affreux. Dieu vous a suscité pour vaincre cette chose, et vous vous y êtes joints. Et Samson arriva et épousa une femme. Il entra en épousant exactement la chose dont Dieu l'avait sorti. Et l'église pentecôtiste fit demi-tour et épousa exactement la chose dont Dieu l'avait sorti. On ne traite pas avec un groupe, Dieu traite avec un individu. Cela a toujours été sa manière. Deux hommes ont deux idées différentes. Dieu fait entrer un homme dans la sienne. C'est tout ce dont il a besoin, un seul homme. C'est ce qu'il est en train d'essayer d'avoir aujourd'hui. Il essaye de vous avoir dans sa main. Il en prendra un ici, un là. Ce ne sera jamais un groupe. Aussi, retirez cela de votre tête. Quand vous vous organisez, aussitôt vous perdez votre droit d'aînesse. Je désire demander à n'importe qui, quand avez-vous jamais vu un homme avec un message de Dieu? Et dès qu'il a quitté la terre, on l'a organisé. Et dès qu'on l'a organisé, le message est mort et il n'est jamais revenu. Il n'y a pas un texte des Écritures nulle part, pas un passage de l'histoire, pas une phrase de l'histoire qui montre qu'une organisation ou qu'un groupe de gens qui se sont organisés n'ait pas perdu leur puissance spirituelle et ne soit jamais revenu, et qu'ils n'ont rien de plus au thermomètre spirituel du Dieu vivant que 40 au-dessous de zéro tout le temps. C'est ainsi. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu en ces jours a toujours suscité quelqu'un qui arrachait cette chose de ses fondations et prenait un petit groupe, une église qui était restée, et le menait à la victoire. Il le fera encore. Il ne change pas. Il est Dieu. Dieu dit une chose pour toujours. Il ne peut pas avoir une idée meilleure. Souvenez-vous que là est notre confiance. Dieu a tracé un chemin pour que l'homme l'adore sous le sang répandu en Éden. Il ne l'a jamais changé. Il ne peut pas le changer. S'il le faisait, c'est qu'il aurait une meilleure idée que la première fois. Donc il ne peut pas l'avoir. Il agit toujours de la même manière. Quand une nation s'est égarée, Dieu a toujours suscité, pris un homme, l'a sorti, lui a donné la parole de Dieu et a condamné tout le système. Il prit l'homme et continua. Il n'a jamais pris une organisation pour le faire. Il vous prendra si vous l'écoutez simplement, si vous vous abandonnez. Oui, il fut prisonnier de la même chose ou de la chose même pour laquelle il naquit dans le monde et pour laquelle il fut revêtu de puissance. On lui faisait faire des tours pour s'amuser. Il les amusait avec des tours. Oh, qu'une femme l'ait détourné de la parole de Dieu. La parole de Dieu était son secret. C'était un don naziréen et il ne devait jamais le dire à personne. Mais il se laissa attraper par une femme. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons laissé entrer dans notre église des choses qui n'étaient pas de Christ. Il n'y a pas d'église qui soit là disant qu'il n'y a pas d'hypocrite dans cette église. Tout l'ensemble est plein d'hypocrites de toutes sortes, c'est juste. Mais je vais vous donner cette assurance. Maintenant, c'est une loge. Vous pouvez appartenir à la loge méthodiste ou à la loge presbytérienne. Mais vous ne pouvez pas appartenir à... Vous ne pouvez pas vous joindre à l'église. Vous pouvez vous joindre à une loge. Mais vous ne pouvez pas vous joindre à une église. Vous y êtes né. Et lorsque vous êtes né dans cette église, il n'y a pas d'hypocrite en elle. Chaque chose y est sainte et sacrée, car vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Elle est scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne pourrait pas vous avoir s'il le devait. Il devrait prendre le même chemin que le vôtre et alors il serait votre frère, voyez-vous? Ainsi, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez vous joindre à une église avec n'importe quoi, juste pour avoir des membres, des décisions. Comme j'ai dit hier soir, tout ce que nous entendons aujourd'hui qui semble être le grand cri de ralliement, c'est plus de membres, plus de membres. Les statistiques, nous les avons battues. On leur fait un don parce qu'ils ont amené quelqu'un d'autre à l'école du dimanche. C'est du prosélytisme. Et que faites-vous en arrivant là? Qu'entendez-vous? Quelques petites Jézabelles maquillées qui parlent de ces rendez-vous de la veille au soir ou quelques littératures accrochées au mur? Et vous savez que c'est vrai. Et les pentecôtistes y glissent tout droit. Ce qu'il y a de plus élevé dans une église, c'est un ancien. Pas un évêque, pas un prêtre ou quelque chose. Dieu traite avec les anciens de cette église. Maintenant, il donne à son église son message et ce dont ils ont besoin. Oui, qu'une femme le détache de la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment l'a-t-on fait? Eh bien, maintenant, regardez, je vais vous dire, frère Intel, maintenant, vous savez, ces gens là-bas, ils font cela, ils regardent ceci. Ce n'est pas un exemple pour vous. Christ est votre exemple. Il a dit, je vous ai donné un exemple. Qu'il soit votre exemple. La même chose pour les églises. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Laissez Jézabel, la mère des prostituées, Apocalypse 17, faire la même chose. La ramener là tout droit dans la même vieille affaire, aveugle maintenant aux choses spirituelles qui arrivent. Oh, vous ne croyez pas, mais vous l'êtes. Ne m'en parlez pas, voyez-vous. Je traverse ce pays dans tous les sens depuis 15 ans. Aveuglé. Les choses spirituelles, voyez Dieu venir et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait dans les derniers jours, on dit. Bien, je vous le dis, je crois que cela peut être juste, mais le ministère qui est derrière n'est pas de Dieu. Comment Dieu peut-il faire sortir de la même fontaine l'eau amère et l'eau douce? Ce n'est pas là. Oui, aveugles aux choses spirituelles et à la parole de Dieu, ils sont retournés au même trou dont ils avaient été tirés. La Pentecôte, naquit hors des organisations, et l'homme l'a ramené dans une organisation. La Pentecôte est une expérience que cette organisation ne peut supporter parce que c'est une expérience personnelle pour chaque personne. C'est juste. Maintenant, regardez-les, vaincus, le groupe tout entier, les ministres, ils ne peuvent être dans leurs églises s'ils n'ont pas une expérience de séminaire. Un de nos grands mouvements pentecôtistes, l'autre jour, ils ont dû amener leur missionnaire à un psychiatre pour savoir si leur quotient intellectuel est élevé, assez élevé pour être missionnaire. Une de nos grandes organisations, voir si leur quotient intellectuel est suffisamment élevé. Dieu n'a jamais rien eu de ce genre. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous avez votre quotient intellectuel, ce qu'il faut pour faire cela. On ne les teste pas comme Jésus a dit de les tester. On les teste d'après leurs propres conceptions intellectuelles. Un quotient intellectuel pour un missionnaire. Dieu n'a pas dit, donnez-leur un pouvoir intellectuel, mais il a dit, vous recevrez une puissance d'en haut. Mais nous nous en éloignons. Rappelez-vous que l'église catholique romaine était d'abord l'église de Pentecôte. C'est absolument vrai. En l'an 33 après Christ. Mais, parce que ces efféminés sont entrés et ont fait leur chemin, la célébrité, la première chose que vous savez au concile de Nicée, ce plan fut adopté et ils s'organisèrent, la chose mourut. Le vrai prophète en sortit en son temps. Pendant près de 1000 ans, c'était l'âge sombre. C'est ce que Dieu a montré. La condamnation de tout le système au commencement, c'est juste. Les ministres passent par le séminaire. J'ai un doctorat en philosophie, j'ai un doctorat en théologie. Avant même qu'ils ne puissent diriger une église, ils montrent une carte de membre. Quelle bêtise! Le prophète du Seigneur sortait du désert et personne ne savait d'où il venait ni où il allait, mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Dieu le prouva. Il n'était dans aucune de leurs organisations. C'est le système de Dieu, c'est juste. Les ministres de séminaire, que firent-ils? Les femmes habillées comme dans le monde, portant des shorts, les cheveux courts, les hommes pas assez spirituels pour le condamner. Un homme qui laisse son épouse faire cela a besoin d'une bonne correction de l'évangile. C'est juste. Elle montre qu'elle n'a pas d'honneur et vous l'acceptez? Un homme qui emmène sa femme dans la rue avec ses petits pantalons de rien du tout dans lesquels elles sont si serrées, elles descendent la rue comme cela, c'est un complet déshonneur pour l'humanité. Pour moi, cela montre qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Cela montre un vide. Si vous voulez être joli, prenez un peu de Actes 2.38, un peu de Jacques 5.14 et mélangez-les ensemble. Ajoutez un peu de Jean 3,16 et mélangez bien. C'est un produit de beauté qui vous suffira. Max Factor, je vois qu'il y a 100 millions de dollars, 100 billions de dollars dépensés simplement chaque année en rouge à lèvres et ce genre de choses. Et les missionnaires qui ont faim dans les champs de mission, et vous dites, nous sommes l'Église, eh bien, cela vous fait honte. Nous avons tout ce prestige et grandes choses. Que faites-vous? Cela montre que vous avez accepté l'esprit de Jézabel, vide. J'ai entendu un ministre l'autre jour, un homme bien. Je l'aime en tant qu'homme. Il appartient à une certaine organisation. Il habite de l'autre côté de la rivière et il avait un programme à la radio. Il revenait, il parlait de ces femmes ici qui mettent tous ces produits bleus et des produits sur leur visage. Eh bien, la première que j'ai vue m'a fait une peur mortelle. J'étais à Los Angeles et j'attendais frère Argan Braith, un homme d'affaires chrétien. J'ai vu une femme qui passait. J'ai pensé, pauvre femme, je suis un missionnaire. J'ai vu la lèpre et la peste, mais je n'avais jamais rien vu de semblable. J'étais prêt à m'avancer et à lui demander si je pouvais prier pour elle. Je me suis rendu compte, il en est arrivé une autre, la même chose. Je ne vous blâme pas de vouloir être en beauté, mais vraiment rester un être humain. Voyez-vous, c'est vrai. Cet homme m'a dit qu'on fait un monde plus joli quand on fait ce produit. Pour moi, cela fait une bande de païens. Et la femme qui fait cela montre qu'il y a quelque chose qui manque chez elle. Il y a un vide qui devrait être rempli par Christ. Et un homme qui laisse sa femme faire de telles choses montre qu'il est vide lui aussi. Et un prédicateur qui permet ces choses dans son église montre qu'il a aussi un vide. Et une organisation qui les tolère montre qu'ils sont morts. C'est juste. Retournez à la Bible. Voilà Samson, une victime de ces choses, comme un exemple pour nous, ce grand homme. Oh, comme ils l'ont laissé faire. Comme Samson pensait à ses erreurs, il pensait aux choses qu'il avait faites et comment il avait trahi Dieu. Je me demande ce qui vient à l'esprit des gens quand vous entendez de tels messages. Ma femme m'a dit l'autre jour, elle m'a dit après, quelqu'un m'a attrapé et a dit, il m'a écrit une lettre et a dit, « Billy, pourquoi ne laissez-vous pas les femmes tranquilles au sujet de leurs cheveux et leur façon, leur... » Il dit, « Les gens pensent que vous êtes un prophète. Vous devriez enseigner aux gens comment avoir de grands dons spirituels et laisser cela tranquille. » Je dis, « Comment puis-je leur enseigner l'algèbre quand elles ne veulent même pas apprendre leur alphabet » Voyez-vous? Certainement. Comment est-ce possible? C'est une telle accumulation de péchés qu'on en voit le signe. Tout le monde sait que le maquillage est un trait du paganisme. Je suis missionnaire. Le maquillage des païens. Les Indiens se maquillaient le visage ici en Arizona avant de connaître Dieu. Et s'ils viennent à connaître Dieu, vous n'avez plus à leur en parler, ils l'enlèvent. Cela montre qu'ils sont en guerre avec Dieu. Et quand ils l'enlèvent, cela montre qu'ils sont en paix avec Dieu. Nous nous appelons une nation chrétienne. Nous appelons notre peuple des chrétiens. Une fois, j'étais en Afrique, là où le Seigneur avait rendu la santé à un homme qui était si estropié, le garçon qui louchait, et les choses qu'il fit là-bas en un quart d'heure environ, et j'ai demandé combien, sur les 25 000 auxquels je parlais à Durban, désirent recevoir le Seigneur Jésus. Et ils se levèrent. Sur les 250 000 auxquels je parlais, ils se levèrent à peu près 30 000. Ils dirent, j'avais 15 interprètes, ils dirent, ils veulent dire la guérison physique. Je dis, je veux dire le salut. Je le fis répéter aux interprètes. Je dis, tous ceux qui me comprennent, ils avaient un tas de petites idoles aspergées de sang, toutes sortes de superstitions, des griffes de lion. Et je dis, vous qui croyez et désirez vous détacher de vos superstitions et servir le Dieu qui est capable de guérir cet homme qui était ici, comme vous l'avez vu le faire aujourd'hui et qui lui a même rendu la raison, si vous le désirez comme sauveur, montrez votre sincérité, brisez votre idole sur le sol. Ce fut comme un orage de poussière. Il y avait là des femmes qui étaient toutes nues, derrière un morceau de tissu qui était accroché devant elles. Elles étaient nues de la taille jusqu'en haut. Mais je dis, levez votre main et faites une prière de pécheur. Et dites, Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Et je dis, sur les mêmes bases où vous vous tenez, levez la main maintenant et acceptez le baptême de l'Esprit de Christ. Et des ministres ici vont vous baptiser du baptême chrétien. Et quand ils levèrent la main, ces femmes qui ne connaissaient pas leur gauche de leur droite, qui étaient venues parfaitement nues. Quand elles s'en allèrent, elles croisèrent leurs bras devant elles pour sortir de la réunion. une seule minute avec Jésus-Christ leur avait fait connaître qu'elles étaient nues. Et aujourd'hui, d'année en année, nous nous dévêtons de plus en plus et nous en retirons de plus en plus. Et, oh, jamais! Et vous l'appelez Dieu? Qui a fait cela? Votre organisation qui vous a permis de le faire, c'est vrai. Le système dont vous vous êtes éloigné pour vous purifier, vous l'avez tout juste ramené à nouveau. J'espère ne pas paraître sacrilège. J'espère être, ce n'est pas sacrilège, c'est la parole de Dieu. Oui, certainement. Maintenant, nous voyons que pendant que Samson était là, se rappelant ses erreurs, se souvenant de ce qu'il avait fait, dans sa profonde conscience qu'il avait trahi Dieu, il avait trahi le peuple de Dieu, et il était là, comme un exemple, pensant à ce qu'il avait été, pensant à ce qu'il était maintenant, et en y pensant, il pleurait. Oh, si l'Église, ce soir, voulait s'arrêter une minute, et regarder au jour de la Pentecôte, regarder d'où nous sommes partis, et se rendre compte de la condition où nos credos et nos embarras nous ont menés. Criez à nouveau. Samson cria, Seigneur Dieu, tire vengeance de mes deux yeux. Si seulement nous pouvions pousser ce même cri de repentance. Seigneur Dieu, ces choses m'ont aveuglé pendant tout ce temps. Il savait qu'il y avait un prix à payer, et vous le savez maintenant. Ma femme Méda me dit, tu traverses le pays, tu vas, tu reviens tout le temps, tu prêches, tu y retournes, et les gens continuent à faire la même chose. Quel bien cela fait-il? Je dis au jour du jugement, il y aura une bande enregistrée sur la grande bande de Dieu. Vous n'ignorez pas ces choses. La voix de Dieu grondera dans les cieux. Il faut qu'il ait une voix par laquelle condamner le monde. Et la voix, c'est l'Évangile. Venge-moi, Seigneur, de mes ennemis. Tire vengeance pour ma vue. Ils me l'ont enlevé, Seigneur, et me voici. Samson aussi savait qu'il était possible que Dieu l'entende une fois encore. Même dans cette condition, c'était possible. Ô Église, il y a une possibilité, malgré tout ce qu'ils font. Comme nous l'entendons tellement aujourd'hui, tant de personnes ont pris une décision. Une décision signifie une pierre, une confession. Comme je l'ai déjà dit, à quoi sert une pierre si vous n'avez pas un maçon avec une parole aiguë pour tailler la pierre pour qu'elle se place dans la construction? À quoi sert de prendre une décision si vous continuez à laisser les hommes et les femmes comme ils sont et simplement se joindre à une église? C'est un tas de pierres qui n'a aucune forme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un maçon, un homme avec la parole de Dieu, une puissance à prouver qui montre que c'est Dieu qui l'a envoyé pour secouer cette église et en retirer les choses du monde et la façonner en pierres qui sont des fils et des filles de Dieu et qui se placent dans sa construction. C'est certainement juste. Oh, il savait ce qui était possible. Pourtant, il se pouvait que Dieu entende une prière. Si nous pouvions seulement faire cela ce soir, Jésus dit quand il était ici sur la terre, le Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Jésus dit, ou la Bible dit dans Hébreux 13, 8, ce fut cité il y a un moment, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et cette vie dénominationnelle en nous, nous l'appelons la vie de Christ, tout en faisant les choses que nous faisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne gardez-vous pas mes commandements, voyez-vous? Pourquoi m'appelez-vous ainsi? Oh, si vous n'avez pas 5 membres dans votre église, apportez-leur la vérité, une possibilité. Et la même chose maintenant, une possibilité. Mais ceux d'aujourd'hui ne paraissent pas saisir la vision comme Samson le fit. Ils ne paraissent pas la saisir. Ils pensent, eh bien, je suis bien installé, nous avons de bonnes églises, et nous n'avons pas de... Voyez-vous, la Bible dit, cette riche église de l'âge de l'Odyssée n'avait besoin de rien. Elle ne savait pas qu'elle était nue, aveugle, misérable. Et elle ne le savait même pas. Maintenant, si vous voyez quelqu'un descendre la rue et qu'il soit aveugle et nu, vous pouvez lui dire qu'il est dans cette situation. Il est nu, il doit aller quelque part pour se cacher. Bien, il est possible que vous puissiez le faire partir de la rue. Mais quand ils se promènent et qu'ils n'ont pas assez de possibilités intellectuelles pour le savoir. Mais maintenant l'Église n'a pas assez de possibilités intellectuelles pour le savoir. Nu, misérable, aveugle, malheureux, pauvre. Christ au dehors, frappant, essayant d'entrer. Et vous continuez à dire que vous n'avez besoin de rien. Je sais que c'est étrange pour certains de vous, mais c'est la vérité de Dieu. La parole le dit. Ils ne saisissent pas la vision. Vous ne pouvez le leur dire, ça leur sort de l'idée aussitôt. Il se peut que sur le moment, ils aient une petite conviction, mais le lendemain, tout est oublié. Ils retournent tout droit à leur partie de cartes et à toutes leurs réunions de couture. Et ils font partie de toutes ces choses et ils ont tout oublié de cela. Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un. Et, oh, c'est certainement arrivé par hasard, disent les gens. Voyez, le diable leur a tellement empoisonné l'esprit avec ces choses qu'ils ne savent plus eux-mêmes où ils en sont. Ils ne bougent pas. Oh, ils battent des mains, ils crient « Amen », ils dansent dans l'esprit. Mais cela ne veut rien dire. J'ai vu des païens le faire, c'est vrai. Vous avez de grands rassemblements et vous dites « Nous avons toujours un réveil, frère Branham ». Oh, quelle sorte de réveil! Vous avez des réunions d'église. C'était là-bas au Kentucky, nous appelions cela des réunions extensibles. Et c'est à peu près cela, extensibles. Elles sont bien loin d'attirer par l'évangile, c'est juste. Oui, ils disent « Oh, nous avons eu une réunion, voulez-vous que je vous dise ?» Docteur Intel est venu dans la ville et nous étions des milliers, toutes les églises coopèrent ensemble. Qu'avons-nous fait? Avons-nous un réveil? Avons-nous ramené les gens à la parole de Dieu? Et Dieu a-t-il travaillé dans l'église? Qu'avons-nous fait? Nous avons une bande de gens qui se rassemblent et qui brillent du clinquant du monde. C'est tout à fait vrai. L'érudition, la mise en scène d'Hollywood. Oh, vous dites, ce sont les baptistes, ce sont les pentecôtistes, c'est vrai. Sur la plateforme, des femmes qui sautent et qui dansent. Un spectacle horrible. Elles ont des petites robes serrées. C'est une honte. Je ne peux même pas trouver des mots justes maintenant. C'est une honte. Des hommes assis là, criant « Gloire à Dieu !»« Alléluia !» Quel genre d'esprit avez-vous donc? Pensez-vous que Jésus se réjouirait devant de telles choses? Il les condamnerait. Pensez-vous qu'Ésaïe viendrait sur la scène? Jérémie, Amos, l'un de ces prophètes de l'Ancien Testament arrivant sur la scène comme ils le firent, et quand ils voyaient les choses qui se passaient, comme ils les dénonçaient à grands cris, ils disaient, le Dieu même que vous dites servir vous détruira. Ils diraient la même chose aujourd'hui, c'est certain. Cela ne veut rien dire, c'est de la mise en scène. Nous avons trop d'Hollywood, mais ce n'est pas ce qui fait descendre l'esprit et la puissance de Dieu. Cela peut produire de l'enthousiasme, mais pas la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas payer le prix. Samson pria comme il fallait. Qu'a-t-il dit? Pour finir, je peux dire ceci. Seigneur, que je meure avec l'ennemi. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas payer le prix en mourant. Vous vous laissez entraîner dans une assemblée, dans une bande de gens avec qui vous vous associez pour jouer aux cartes, rester à la maison, regarder le programme de télévision, manger des chips et boire du coq, et l'église reste vide, c'est vrai. On vous fait signer une carte. Vous irez à l'école le dimanche pendant 6 mois de l'année. Un tel enthousiasme fabriqué par l'homme, ce qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit. On vous dit, je l'ai. Vous n'agissez certainement pas comme si vous l'aviez. Non, monsieur. Que le prédicateur prêche 1 heure ou un peu plus, et vous êtes prêt à convoquer le conseil des administrateurs et le mettre à la porte. C'est vrai. Oh, vous voulez manger votre gâteau et en même temps le garder. Cela ne se peut pas. Non, monsieur. Vous devez renoncer à vous-même. Vous avez un prix à payer. Vous avez un nettoyage à faire. Et je vous le dis, l'Église entière a besoin d'un nettoyage complet depuis la chair jusqu'à la loge du concierge. C'est juste. C'est la vérité. Et ils ne veulent pas payer. Mais Samson fit la prière qu'il fallait quand il dit « Seigneur, que je meure avec ces Philistins. Il avait trahi, mais que je meure. Il faut que vous soyez prêts à mourir à l'ennemi qui a eu la victoire sur vous. Il faut que vous soyez prêts à renoncer à vos idées propres. Samson désirait payer le prix pour retrouver la puissance de Dieu. Je me demande si vous, les femmes, vous désirez laisser pousser vos cheveux. Je me demande si vous, les hommes, vous avez assez de courage pour le leur dire. Vous êtes censé être la tête de la maison, elle en est le coup, et c'est elle qui vous fait tourner. C'est contraire. Pensez-vous qu'un réveil bouleversant ferait sortir ces femmes des fonctions publiques, celles qui sont agents dans la rue et tout cela? Elles devraient être dans leur cuisine. Vous pensez que vous ne pourrez jamais l'y ramener? Non, monsieur, elle ne le fera jamais, à moins qu'elle ne soit sauvée, alors elle le fera. Vous n'aurez rien à lui dire à ce sujet. Elle trouvera sa place. Le Saint-Esprit la conduira à sa place. Mais vous dites, c'est le Saint-Esprit qui me conduit vers ce qui est contraire à sa parole? N'appelez pas cela le Saint-Esprit. Voulez-vous payer le prix? Ceci est une église pentecôtiste. Voulez-vous payer le prix? Et c'est bien cela. Vous voyez quelle honte est la nôtre, c'est juste. Samson désirait payer le prix pour retrouver la puissance de Dieu. Oh, j'entends certains d'entre vous dire, pourtant nous avons un réveil, frère Branham. Mais qu'obtenez-vous après que vous ayez eu le réveil? Billy Graham a dit dans son message à Louisville, Kentucky, quand j'étais assis avec lui pour le déjeuner, il se leva, il prit la Bible et il dit, cette Bible est la façon dont Dieu fait les choses. Comme c'est vrai. Mais alors, ce qu'il y a à faire, faites-le. Il dit, voilà là dans une ville, et il y convertit une personne. Il y laissa à cette personne un seul converti dans une ville. Et l'année suivante, il y retourna et se convertit, en avait converti 30 ou 40 et les avait amenés à Christ. Il dit, je vais dans une ville et qu'est-ce que je fais? J'ai 30 000 conversions ou décisions. Il dit, j'y retourne l'année suivante et j'en ai pas 30. Il dit, que se passe-t-il? Alors il désigna les prédicateurs et dit, c'est vous, prédicateurs paresseux. Vous restez assis les pieds sur le bureau et vous n'allez même pas rendre visite aux gens. Maintenant, il y avait une grande part de vérité là-dedans, c'est vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Comme l'homme qui mangeait des pastèques, il dit, donne-lui un morceau, et ce vieux noir, et il dit, oh, c'était bon, mais il y en a certainement encore, et c'est juste. Voilà ce que c'était. Qui suis-je pour parler à ce grand évangéliste? Qui suis-je pour dire un mot à un grand homme comme Billy Graham? Loin de moi! C'est un serviteur de Dieu, je n'en parlerai pas, à moins qu'il ne me le demande. Et peut-être pourrais-je dire quelque chose. Mais j'aurais voulu lui dire ceci, Billy, quel prédicateur paresseux gardait ses pieds sur le bureau quand Paul avait eu une conversion. Il n'y avait pas un seul prédicateur dans le pays. Qu'était-ce? Paul ne l'a pas laissé s'arrêter à la décision. Quand il prit sa décision, il était là avec la parole de Dieu et il le façonna en un fils de Dieu. Alors on ne pouvait plus le faire se tenir tranquille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces décisions ont besoin d'être façonnées en fils et filles de Dieu. Purifiez-vous et retournez à la parole, retournez à l'évangile. Certainement, c'est ce qu'il nous faut. Oui, nous avons un réveil aujourd'hui, mais qu'est-ce? C'est un réveil dénominationnel. Les baptistes avaient un slogan, 1 million de plus en 44. Qu'obtenez-vous? C'était à l'église où ils disaient qu'ils avaient un réveil, qu'ils devaient faire une pause de 15 minutes pour que les gens puissent sortir et fumer entre l'école du dimanche et cela. Et le pasteur fumait aussi. La Bible dit, purifiez-vous de toutes les habitudes impures, voyez-vous? Maintenant, qu'allons-nous pouvoir y faire? Bon, vous dites, ce n'est pas juste. Le Saint-Esprit, quand il viendra, vous enseignera toutes choses, voyez? Il le fait certainement. Et quelqu'un a dit quelque chose sur la guérison divine. Et il proclame, c'était une autre époque, voyez, montrant que c'est du passé. Peut-être ce sera dans le millénium. Pourquoi désirez-vous la guérison divine dans le millénium alors que vous êtes immortel? Aujourd'hui est le jour. Ceci est le jour. On dit, eh bien, nous avons des réveils. Regardez la corruption morale dans l'Église. Regardez comme elle augmente chaque année. Regardez vos groupes pentecôtistes comme ils sont tombés. Fermez les yeux et rappelez-vous il y a 15 ans quand j'étais ici. Puis regardez et voyez ce que vous avez aujourd'hui. Vous savez que c'est la vérité. C'est un péché et une honte. C'est juste. On s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu, continuellement. Samson connaissait sa condition de renégat. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir la force de relever le défi du moment, bien qu'il ait été là. Tout son mécanisme était là. Les mêmes muscles qui avaient pu prendre la mâchoire et battre 1 million de Philistins, le même homme avait les mêmes muscles. Les mêmes épaules qui pouvaient porter les portes de Gaza jusqu'au sommet de la montagne avaient les mêmes muscles. Oh, je pourrais dire quelque chose ici, voyez. Mais il savait qu'il ne pouvait pas relever le défi de cette heure. L'Église aussi sait que dans sa déchéance morale, elle ne peut relever le défi de cette heure. Le communisme s'empare de tout. Et qu'essayons-nous de faire? De trouver une consolation en se joignant à ces gens, en se mettant sous le même joug des dénominations qui ne croient même pas à la guérison divine ni à la puissance de Dieu. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Nous nous unissons au milieu de toutes ces sottises, puis nous espérons que Dieu, nous disons, nous sommes nombreux. Dieu ne remarque pas le grand nombre, il cherche un caractère. Je dis qu'Eliezer a peiné avant de trouver un caractère en Rebecca, puis il dut la parer, la préparer, la faire se tenir calme pour écouter son message. L'ennui aujourd'hui est que lorsque vous trouvez un caractère, c'est difficile de les faire se tenir tranquilles assez longtemps pour pouvoir les préparer et les vêtir, c'est vrai. Un efféminé les aura poussés dans une autre direction. c'est vrai. Mais là-bas, Eliezer avait peiné. Maintenant, Samson savait qu'il n'avait pas la force, bien qu'il ait les muscles. Et nous avons tout notre mécanisme. Nous avons les grands prêtres des districts, nous avons tous les évêques, les archevêques, nous avons le pape, nous avons la hiérarchie, nous avons tout le mécanisme. Nous avons les plus grands immeubles, plus d'argent sur terre. Quel bien ça nous fait-il? C'est un airain qui retentit, une cymbale qui résonne, c'est vrai. Mais nous savons que nous ne pouvons pas relever le défi de l'heure. Aujourd'hui en Russie, le communisme s'empare du monde. Que se passe-t-il? C'est quelqu'un qui a l'audace de soutenir ses convictions, bien qu'elles soient fausses. Seulement 1% de la Russie est communiste. 1%! 99% ont encore un soi-disant christianisme libre, mais ils n'ont pas le quotient intellectuel de l'évangile. Ils n'ont pas ce qu'il faut, bien qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient tout cela, mais ils n'ont ni le courage, ni la grâce. Ce dont Dieu a besoin en Russie, c'est d'un homme loin de la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Samson savait ce dont il avait besoin. Nous pouvons ramener toute l'Amérique et que tous aillent à l'église. Nous ne l'avons toujours pas. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Les disciples ne l'avaient pas avant la Pentecôte. Jésus leur dit qu'ils ne l'avaient pas après qu'ils aient prêché pendant 3 ans. Cela leur manquait encore. Cela manque à l'église, c'est juste. Regardez, Samson savait qu'il avait un besoin. Il lui manquait quelque chose. Les dénominations ne peuvent le produire. Elles ne revendiquent pas la parole. Leur enseignement est contre elles. Oui, vous savez. Mais maintenant, Samson réalisait qu'il était insuffisant lui-même. Bien qu'il ait tout son régime, il était encore insuffisant. Regardez-le. Les Philistins se réjouissaient de leur victoire. Ils n'avaient pas remarqué qu'il levait la tête, que ses lèvres remuaient dans la prière, les larmes coulant des orbites dans lesquelles il y avait eu ses yeux. Ils ne remarquèrent pas cela. Ils passaient un trop bon moment. Ils voulaient que Dieu se manifeste encore à cette Jézabel. Oh, si nous pouvions voir s'élever un Samson. Oh, Église, pas une nouvelle dénomination, pas recommencer un credo ou une plus la dernière saison. Il nous faut la puissance de Dieu. C'est vrai. Il savait ce qui arriverait si Dieu répondait à sa prière. Mais il était prêt à faire face au dénouement. Il était tout à fait sérieux. Oh, si l'Église ce soir voulait seulement se tenir dans cette position tout à fait sérieuse, sachant que vous allez devoir abandonner tout ce qui vous est cher dans ce monde. Les ministres vont cesser de vous flatter et de vous dire « Docteur un tel, c'était merveilleux. Voulez-vous venir vous baigner avec nous cet après-midi ?» Sortez ces jeux d'argent de l'église et les courses et la loterie. Les jeux d'argent, c'est la loterie. Et tous ces soupers pour payer le prédicateur. Retournez à la dîme de Dieu. Retournez à la parole. Le désire-t-il ? Non, monsieur, il ne le désire pas. Vous savez quel en est le prix. Cette femme vous dira « démodé ». Mais Dieu vous dira béni. Voulez-vous mourir? Voilà l'ennui. Vous voulez rester vivant pour Hollywood et en même temps vivre avec Dieu. Cela ne peut pas se mélanger. Une semence, Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Oh, Église du nom de Jésus! Quelle Église glorieuse, quel nom glorieux, le nom de Jésus! Êtes-vous prêts à mourir? Assemblée de Dieu, Assemblée Générale, êtes-vous prêts à mourir? Méthodiste, baptiste, presbytérien, êtes-vous prêts à mourir à votre ennemi? Voulez-vous payer le prix du sacrifice? Vraiment? Sincèrement? Pas seulement venir et dire, eh bien, je vais essayer, voir comment je m'en sors. Vous n'êtes pas encore prêts. Il faut que vous soyez prêts à payer le prix et mourir. Vous, les pères et les mères, êtes-vous prêts à mettre un autel dans votre maison et à en retirer la télévision? Êtes-vous prêts à retirer ce paquet de cartes de la table? Ces bandes dessinées que lisent vos enfants, préparant leur esprit à une rafale que le diable va leur envoyer. Êtes-vous prêt à installer le vieil hôtel de famille ou désirez-vous simplement continuer comme vous êtes? Vous voulez continuer? Alors vous n'êtes pas encore en condition pour venir. Mais je prie que vous soyez comme Samson, que vous connaissiez le prix et que vous soyez prêt. Seigneur, que je meure avec eux. Il savait ce qui lui en coûterait si Dieu répondait à sa prière. Beaucoup de gens, je les ai bien vus depuis que je suis ici, viennent à l'autel et le Saint-Esprit vient vers eux, mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent rester vivants dans le monde. Vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Êtes-vous prêt à tout abandonner pour servir Dieu? Écoutez-le crier, Seigneur, cette fois encore seulement. L'Église pentecôtiste, le Conseil Général, les Assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, vous tous, êtes-vous prêts à payer le prix? désirez-vous dire une fois encore, Seigneur, me voici, je n'ai pas eu l'audace ni le véritable esprit chrétien de donner une poignée de main à mon frère unitaire ou à mon frère trinitaire. Je n'ai pas eu l'audace de le faire, je n'ai pas eu la grâce de le faire. Quand j'ai vu où cela me menait à me séparer des organisations de la communion fraternelle, avec des congrégations si remplies de fiel les unes envers les autres qu'ils se parlent à peine dans la rue, alors que nous sommes modelés en une seule argile par le Saint-Esprit. Voulez-vous crier une fois encore, Seigneur, que cela arrive? Si oui, Dieu entendra certainement votre prière. Observez quand cet homme était là, avec tous ses muscles, sa forte constitution, pourtant il était toujours aveugle. Il connaissait le prix, il connaissait la possibilité, il dit, encore une fois, Seigneur, encore une fois, venge-moi d'avoir perdu la vue. Et quand il fit cette prière, Dieu y répondit. Chaque fibre de son corps commença à se tendre, l'esprit commença à venir dans ses muscles. Oh, si nous pouvions avoir l'esprit sous nos réunions de prière du mercredi soir ou sous notre école le dimanche, sentir les fibres des muscles de la puissance de Dieu se tendre, où le Saint-Esprit peut entrer. Pas un simulacre, mais un véritable esprit pour révéler les secrets du cœur et pour corriger les péchés qui y sont et chasser le mal. Alors que ces muscles commençaient à se tendre, que je meurs avec eux, et ces fibres musculaires se tendirent, ces grands et gros muscles reçurent de la force, le Saint-Esprit commença à venir sur lui, il secoua cette maison de pierre de sa force puissante, et elle s'effondra. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une prière sincère, encore une fois, Seigneur. Alors que nous devrions être dans la terre promise, nous errons encore dans le désert. C'est comme Israël qui voulait une loi, quelque chose qu'il puisse faire. Vous ne pouvez rien faire. Acceptez Christ. Nous voudrions une doctrine, quelque chose dont nous puissions nous enorgueillir et devenir quelqu'un d'une classe différente des autres. Voyez-vous, nous en sommes aveugles, c'est juste. Et la grande dénomination s'effondra, c'est toujours ainsi. Quand Dieu entre, les autres choses s'effondrent. C'était la plus grande victoire de Samson. Oh, je souhaiterais voir l'Église du Dieu vivant se tenir debout ce soir. Encore une fois, Seigneur, encore une fois, envoie-nous un réveil, même si cela me coûte tout, même si cela me coûte tout ce que j'ai, envoie-moi un réveil, envoie-le sur moi, Seigneur. Entendez ce groupe de 300 personnes environ plus, ici ce soir, crier d'une seule voix, Seigneur Dieu, que je vois encore Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que je sache qu'il est près de moi, que je sache qu'il est là pour prendre soin de moi, je le veux maintenant. Oh, rendez-vous, l'ennemi tout entier fut détruit. Les pentecôtistes se tiennent près de cette colonne ce soir. Ces choses pour la destruction desquelles vous étiez nés, vous y êtes retournés. Repentez-vous, criez à voix haute, Seigneur, encore une fois, que nous le voyons encore une fois. Laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Il vaudrait mieux détruire votre ennemi avant que votre ennemi ne vous détruise. Ramenez la réunion de prière à l'ancienne mode, la repentance à l'ancienne mode, quand on restait à l'autel jusqu'à ce que l'on soit mort et que l'on en ait fini avec le péché. Vous n'avez jamais vu une femme aller à l'autel et mourir au péché et venir le jour suivant avec les cheveux coupés, du maquillage sur le visage. Cela n'existe pas. Le Saint-Esprit nous enseigne, la nature le fait, la nature du Saint-Esprit. Vous n'auriez jamais vu les femmes sortir habillées d'une façon indécente et rentrer en essayant de se couvrir. Vous n'auriez jamais vu un homme qui avait peur de se lever ou qui avait peur que sa petite femme ne le quitte ou quelque chose comme cela parce qu'il prenait l'initiative. Les hommes étaient des hommes à cette époque. Ils parlaient, ils étaient des hommes, ils dirigeaient leur maison, ils étaient le chef de la maison. Mais cet Américain de fantaisie, j'ai travaillé un peu avec un étudiant grec. Il est assis là, il me regarde. Il est venu de Grèce, un étudiant en grec. Et il a commencé à passer mes bandes et à observer le message. Il me dit, je sais que vous n'avez pas d'instruction, mais frère Branham, vos paroles et votre message s'adaptent exactement à l'interprétation grecque de la Bible. Il dit, c'est tout à fait exact. Ce que vous avez dit est tout à fait exact. Et il va me voir et il me dit, Laodicée veut dire femme en grec. C'est le monde de la femme, l'église de la femme, l'âge de la femme. Plusieurs hommes voulaient, quand Dieu est-il jamais venu dans cette condition? Oui, êtes-vous prêt à ramener un réveil? Êtes-vous prêt? Une femme a dit, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est mon privilège américain. C'est votre privilège américain, ce n'est pas pour autant le privilège que Dieu vous a donné. Une brebis, Une chèvre fait toujours un tas d'histoires, mais une brebis se tient tranquille et se laisse confisquer ses droits. Voyez-vous, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous vous laisserez confisquer vos droits américains par le Saint-Esprit, et vous le laisserez vous façonner et vous rendre comme vous devez l'être. Une fois encore, Seigneur, ô Église, abandonne la Dalila d'Hollywood où elle te tuera. Elle vous étouffera pour faire sortir de vous votre vie spirituelle. Abandonnez-la, votre mise en scène d'Hollywood sur la plateforme, votre Hollywood, votre clinquant. Nos réunions doivent être de telle sorte qu'elles puissent rester dans les grandes choses comme le reste du monde, qu'elles puissent être dans les plus grandes églises. Un évangéliste vient en ville, il faut lui promettre une certaine somme d'argent, ou alors il ne vient pas. Comme c'est ridicule. Cela montre que là où est votre trésor, là est votre cœur. Retournez à Dieu et à toute sa parole, de tout votre cœur, et crions encore une fois, Seigneur, montre-nous ta présence encore une fois. Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde, c'est le cosmos là, je crois, et l'ordre du monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, le croyant, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez encore davantage, car je vais à mon Père. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pas faire semblant de croire, mais croire. Ô Église, nous croyons que Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité des morts. Il est ici, juste maintenant. Si je n'avais pas cet appui, je ne dirais pas ce que je dis. Et je sais qu'il est ici. Et il prouve qu'il est ici. Il est toujours là pour soutenir sa parole. S'il se tenait ici ce soir, que dirait-il? Il reviendrait tout droit à la parole, disant les mêmes choses qu'il a dites. Maintenant, vous dites, était-ce Jésus qui parlait? Eh bien, si cela n'était pas, je ne voudrais certainement pas le dire moi-même. Certainement. Comment peut-on le prouver? Courbez la tête un moment. Père céleste, tes serviteurs peuvent dire tout ce qu'ils désirent. Et nous pouvons apporter la vérité si clairement aux gens, mais ce n'est pourtant encore qu'une émotion. C'est encore seulement les lèvres d'un être humain parlant à une assemblée. Et Seigneur, tu es surnaturel. Et où que tu sois, il y a des signes surnaturels, il y a des miracles qui s'accomplissent, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Quand tu étais ici sur la terre, tu te promenais parmi les gens, tu guérissais les malades. Une femme un jour toucha ton vêtement et tu te retournas et dis, « Qui m'a touché ? » Toi-même, tu ne le savais pas. « Qui m'a touché ? » Mais Dieu était en toi. Tu connaissais les secrets du cœur parce que la Bible dit, « La parole de Dieu est plus forte et plus aiguë qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. » Et tu as jeté un regard. La petite femme ne pouvait pas se cacher. Et tu lui as dit que sa foi l'avait sauvée. Tu as dit, je ne fais rien avant que le Père ne me le montre d'abord. Ce que le Père fait, je le fais aussi. Si tu étais ici ce soir, tu ferais exactement ce que le Père t'a montré de faire. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses apporter cette église une fois encore, Seigneur Dieu, ces gens ici ce soir, qui sont tous d'églises différentes, méthodistes, baptistes, catholiques, presbytériens, pentecôtistes et toutes sortes d'étiquettes sur eux. Tu ne regardes pas à l'étiquette, tu regardes la marque du sang. Je te prie, Père Céleste, ce soir, que les gens oublient l'étiquette qu'ils portent et qu'ils se souviennent que la Pentecôte n'est pas une organisation, c'est une expérience qui arrive à tous les hommes et à toutes les femmes qui se confient en toi. Guéris les malades, Seigneur, sauve les perdus et à toi soit l'honneur. Maintenant, je présente cet auditoire avec ces paroles entrecoupées, Seigneur. Je ne suis pas éloquent. Je ne suffis pas à apporter la parole, mais j'ai cette confiance que le Saint-Esprit prendra ces choses et les révélera et les fera connaître par la disposition d'esprit dans laquelle elles furent données. Pas pour se sentir inférieur, mais pour se sentir plein d'humilité. Pas pour être différent, mais pour être vrai et honnête envers les gens, comme je le serai envers Dieu. Car si je ne peux pas être honnête avec ses enfants, comment pourrais-je être honnête avec lui? Et je te prie, ô Dieu, de prouver ceci ce soir, juste devant les gens maintenant, pour qu'ils puissent connaître qu'ils vivent dans l'ombre du temps, que le message de l'heure est « Repentez-vous et retournez à la foi des pères. » Accorde-le. Et je le remets entre tes mains, sauve les pécheurs, remplis les croyants, guéris les malades, apporte ta gloire. Et que nous puissions crier d'un même accord, encore une fois, Seigneur, encore une fois, accorde-le encore une fois. Nous te le demandons au nom de Jésus. Les têtes baissées dans la prière, voudriez-vous considérer ceci Est-ce moi, Seigneur? Que puis-je faire? Que dois-je faire? Sondez-vous simplement pendant que la musique joue doucement. Pensez à ce message balbutiant. Ne pensez pas au messager. Pensez à ce qu'est le message. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin de Dieu, levez simplement la main en gardant la tête baissée. Seigneur, souviens-toi de moi. Quel que soit votre besoin, Seigneur, souviens-toi de moi. Ayez foi en Dieu maintenant. Ne doutez pas. Croyez seulement. Continuez à demander jusqu'à ce que Dieu vous parle et vous dise, j'exaucerai ta prière. Seigneur, je suis là aveugle aussi, j'ai honte de moi-même. Je suis là, me prétendant chrétien, tout en menant la vie que je mène. J'ai honte de moi, aie pitié de moi, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi physiquement, guéris-moi spirituellement. Je veux t'appartenir. Je sens ton esprit sur moi. Frère Branham a dit que tu étais ici avec nous, je le crois maintenant, parce que j'ai senti ta présence. Je sais que tu es ici. Le Dieu du ciel répondra à votre prière. Croyez seulement maintenant. Laissez simplement le message pénétrer profondément en vous. Priez seulement. Ayez la foi. Ne doutez pas. Croyez. Maintenant, Seigneur, j'ai laissé ce laps de temps pour que les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles puissent y réfléchir. Le message a été étrange pour certains, sans aucun doute. Mais Seigneur, tu sais que c'est vrai. Lorsque j'étais assis dans la pièce cet après-midi, tu m'as rappelé à la mémoire ce grand homme qui pendant un moment vécut pour toi, puis la situation dans laquelle il tomba. Maintenant, Père, de même que Samson était prêt à mourir, mourir à lui-même, mourir avec ses ennemis, pour ramener la victoire de Dieu et la promesse, puissions-nous, avec toutes nos idées d'Église et toutes les différences qu'il y a entre nous, mourir à nos propres pensées et accepter ta parole. Mourir aux pensées qu'on nous a inculquées. Les temps des miracles sont passés, alors que nous savons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Accorde, Seigneur, que cet auditoire voit une fois encore que la main de Dieu agit, et alors qu'il puisse venir se repentir et que ce soit une grande réunion, et que de cette petite église sorte un réveil qui tuera tout l'amour pour le monde des Philistins dans tout le pays, et que ce soit un exemple pour ces gens qui s'en vont ce soir. Nous te prions de venir comme tu l'as fait sur le chemin d'Emmaüs. Tu parlais à ces hommes tout le jour, ils parlaient de toi. Toi, tu leur parlais et ils ne te reconnaissaient pas. Beaucoup ici, Seigneur, vont à l'église. Ils sont sincères et en réalité, on ne les enseigne pas différemment. Mais alors, cette nuit-là, lorsque tu fus avec eux dans la pièce et que tu fermas la porte, tu fis exactement la même chose que tu avais faite avant ta crucifixion. Et alors, ils surent que tu étais ressuscité des morts. Ils repartirent vite, les pieds légers, le cœur léger, et parlèrent aux disciples. Et d'un cœur léger, ils dirent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient en chemin? Que cela arrive encore une fois, Seigneur. Accorde-le-nous, viens dans l'auditoire et fais les choses que tu fis avant ta crucifixion, que cet auditoire puisse savoir que ton serviteur inutile ne leur a pas menti, mais leur a dit la vérité. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous pourrions certainement appeler une ligne de prière. S'il y a des cartes, je ne pense pas qu'il y en ait. Nous avons donné des cartes certains soirs. Je ne pense pas qu'on en ait donné ce soir. Mais on a des cartes ici. Mais même avec des cartes, nous ne pourrions pas avoir de ligne de prière, voyez-vous, parce que nous sommes trop serrés. Maintenant, nous allons terminer. Mais combien de personnes ici sont malades? Montrez vos mains. Levez la main si vous avez besoin de Dieu. Si c'est pour quelqu'un d'autre que vous avez un besoin, levez la main et prions. Maintenant, soyons respectueux. Maintenant, ne manquons pas de comprendre ce message. Écoutez, maintenant, si Jésus était debout ici, portant ce costume, vous vous précipiteriez sur la plateforme et vous diriez, « Seigneur Jésus, guéris-moi. » Vous savez ce qu'il vous répondrait. « Je l'ai déjà fait. Il fut blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Le prix est payé. Il faut que vous le croyiez. » Vous dites, « Mais si je pouvais croire qu'il est près de moi, si je savais qu'il est ici, si je... que c'était il y a 2000 ans, eh bien, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous aimerions le voir. Si nous le voyons, il agirait comme il le fit. Maintenant, je vais donner pour vous, frères dans le ministère, quelque chose dans l'Écriture. Le Nouveau Testament dit qu'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Est-ce juste? Quand il était sur terre, il agissait comme étant souverain sacrificateur. Eh bien, il était plus que cela. Il était Dieu. Comment? Comment les gens pouvaient-ils obtenir quelque chose de lui? Une petite femme toucha son vêtement ce temps-là, et Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Et chacun dit que ce n'était pas lui, Mais l'Esprit de Dieu qui était en Christ, faisant de lui l'Emmanuel, le fit se retourner et trouver dans l'auditoire une petite femme et lui dire quelle était sa condition. Il dit, ta foi t'a sauvée. Est-ce vrai? Bien. Et maintenant, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, s'il est le même souverain sacrificateur, il agira de la même façon. Maintenant, vous m'êtes étrangers, la plupart d'entre vous. Je connais frère Dalton et ceux qui sont assis ici dans la première rangée, ce groupe juste ici parce qu'ils viennent du Kentucky. Je les connais depuis des années. Je ne me trompe pas, mais je crois que tout là-bas au fond, je vois frère Jane Gould et frère Léo Mercier. Je n'en suis pas sûr, mais je suis heureux de vous voir, frère. Je vois frère et sœur Dow assis ici. Vous donc que je connais, si vous avez quelque chose qui ne va pas, attendez. Je ne vous veux pas maintenant. Je veux quelqu'un qui ne me connaisse pas et qui sache que je ne vous connais pas. Je veux que vous priez. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vous touchez son vêtement et son Esprit Saint agira à travers nous. Si vous avez le bon canal, l'Esprit par lequel vous croyez, le même canal qui est ici, il agira de la même manière. Cela ne peut pas être autrement, c'est Dieu. Si vous mettez la vie d'un pommier dans un pêcher, il ne portera plus de pêche, il portera des pommes. Et si vous mettez la vie de Christ dans un homme qui est un être mortel, il portera les fruits de l'Esprit, il portera les fruits de la résurrection. Christ a donné ce message et c'est pourquoi l'Église le porte. Allez dans tout le monde et vers toute créature. Des millions ne l'ont encore jamais entendu. Des nations ne l'ont pas encore entendu. Pendant combien de temps? Tout le monde, à chaque créature, ses signes suivront ceux qui croient. Jusqu'où? Dans le monde entier. À qui? Toute créature. C'est là qu'il donna autorité à l'Église. Maintenant, montrez-moi dans les Écritures où il a retranché cela. Les hommes peuvent y introduire leur idée, mais ce n'est pas l'idée de Dieu. Il a dit dans le monde entier à toute créature. La bande originale anglaise s'arrête ici, mais Frère Branham commence et continue à discerner les secrets des cœurs, note de l'éditeur.